Fréquence Gaming. Fréquence Gaming, toute l'actu des jeux vidéo.
Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur la première émission de Fréquence Gaming. Bonjour Bastien.
Salut Dimitri.
Ben, on a un beau programme aujourd'hui, je pense, qui s'annonce. Donc, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui.
En effet. Et le sujet premier de notre première émission, justement, c'est...
Fréquence Gaming, la rubrique jeux vidéo du mois.
Et aujourd'hui, nous allons faire une spéciale Nintendo, justement, parce que tu sais très bien que c'est le lancement de la Nintendo Switch. Donc, il y a un petit line-up qui s'annonce... avec la Switch, même si comparé aux autres, c'est pas terrible. Donc, je te laisse commencer.
Oui, exactement. Alors, si je me souviens déjà pour commencer, le line-up de la Switch a été prévu au nombre de 60 jeux dès son lancement. Et dont, pour présenter l'un d'entre eux, je me permets de vous parler du Bomberman R. Alors déjà, pour commencer, Bomberman, c'est quoi? C'est une licence née en 1983 par Udon Soft, où le joueur doit incarner un poseur de bombes extraterrestre. Alors, les niveaux sont déroulés dans des arènes en forme de labyrinthe, dans lequel vous avez donc des bombes à poser, comme je l'ai dit. Et ensuite, une fois que les bombes sont posées, il faut que vous vous arrangez pour vous placer de manière à éviter est-ce que le souffle de l'explosion ne vous embarque.
Ouais.
Donc ça, c'est le but premier du jeu. Et il se trouve justement que depuis maintenant 8 ans, depuis la PS3 qui a eu le Bomberman Ultra, nous n'avions plus eu de jeu de cette licence. Donc c'est déjà un bon point pour Nintendo selon moi. Surtout qu'il propose un mode histoire un peu inédit, on va dire. Et surtout que nous avons quand même le retour des Dust Buddy Bombers. Alors les Dust Buddy, c'est quoi? Ce sont les boss des versions traditionnelles. Et il y a également une nouvelle forme, Bubagura, qui est l'antagoniste principal de la série.
D'accord.
Donc, ce qui fait un nombre total minimum de 6 boss, déjà, pour commencer. Donc, je ne sais pas s'ils vont rajouter plus ensuite pour le mode histoire. Mais, vu le listing de Bomberman qu'on va avoir à disposition, ça promet du lourd, quand même. On a un nombre total de 8 Bomberman déjà annoncés. Alors, et c'est pas dit qu'il y en aura plus derrière.
Est-ce que tu conseillerais aux gens de jouer plutôt à plusieurs ou solo, justement?
Eh bien, moi qui ai joué à 2 ou 3 Bomberman par le passé, personnellement, je dirais que ça se joue très bien seul, mais c'est encore meilleur à plusieurs, quoi.
Ah oui, c'est ça.
C'est surtout un truc qui se partage avant de se jouer seul. Ça, c'est vrai. Par contre, je ne cache pas que même si c'est seul, parfois, on se prend des tripes. C'est facile, mais tellement retors. Hein.
D'accord. Ben écoute, c'est parfait pour ce Bomberman, Bastien. Ben écoutez, moi je vais enchaîner sur Zelda. Tu sais très bien que c'est une licence hyper connue de Nintendo.
Exactement, depuis la NES.
C'est ça, et aujourd'hui il y a le nouveau Zelda qui sort justement avec la Nintendo Switch, qui est Zelda Breath of the Wild, qui s'annonce énormissime. D'après les sites internet, déjà jeuxvideo.com a mis 20 sur 20 sur ce jeu-là. Et tout ce qu'on sait, c'est que c'est un open world, avec plus de 150 donjons annexes à faire dans le jeu, et la map world qu'ils ont dit que c'était aussi grand qu'un Skyrim.
Ce qui est surtout énorme, c'est surtout l'information dont tu m'as relaté, qu'on peut accéder au boss directement dès le début du jeu.
C'est ça.
Mais le problème, c'est que comme on a l'équipement de très basse qualité, c'est déconseillé. Honnêtement, je déconseille pas de commencer directement par le boss final.
C'est ça. Et donc, graphiquement, il est joli, je trouve. Et il est plus joli que, d'après les rumeurs, il est plus joli en version portable que sur sa télé. Donc, c'est pas mal du tout. Et puis, voilà, moi, je conseillerais, c'est vrai, ce Zelda dès le lancement de sa Switch. Parce qu'on connaît tous Zelda. On sait très bien que c'est une bonne licence. Et c'est du Nintendo tout craché, quoi, surtout.
C'est ça. Du Nintendo pure tradition, quoi.
C'est ça. Donc, ce Zelda s'annonce énorme. Donc, je vous conseillerais de l'acheter avec la Nintendo Switch, justement.
Et puis, en toute honnêteté, c'est quand même le pilier mère du lancement de la Switch aussi. On peut pas le cacher.
C'est ça. Et c'est un des seules grosses licences qui sort avec la Switch aussi. Nous allons lancer tout de suite une pause musicale.
Regarder la vie en couleur quand... quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, 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 je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, 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 ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai plié tellement de fois. Non, 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 je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là.
Fréquence Gaming. Fréquence Gaming, toute l'actu des jeux vidéo.
Rebonjour et bon retour parmi nous.
Bon retour. Donc la troisième rubrique qui est
les sorties à venir.
De la Nintendo Switch.
Exact. Et cette fois-ci, on va commencer tout de suite avec les sorties annoncées pour les mois prochains. Donc, je me permets de commencer avec Dragon Quest Heroes 1 et 2. Enfin, ce sera surtout le deuxième parce que le 1 sera exclusif à la version Switch. Alors, déjà, pour commencer, Dragon Quest, c'est quoi? Alors, c'est déjà, il s'agit, bon, bien sûr, d'un jeu, mais également connu sous le nom de Dragon Warrior aux États-Unis. C'est une série de jeux vidéo créée en 1986 par le concepteur Yuji Horii, qui tient la place de directeur et de producteur de, à chaque épisode, tandis que Akira Toriyama, qui est le mangaka, le père de la célèbre série Dragon Ball, hein, je pense que tout le monde connaît un peu Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, surtout Dragon Ball Super récemment, hein. Donc c'est, je pense que vous voyez un petit peu de quel genre de graphisme on a à faire, là. C'est Akira Toriyama qui supervise l'environnement graphique ainsi que le chakra design des personnages. Et Koji Sugiyama qui compose les musiques. Alors, la série est extrêmement populaire au Japon, hein. Elle s'est vendue à peu près 50 millions d'exemplaires dans le monde. Faut pas, voilà, quoi. Et c'est la société japonaise Enix qui a créé le premier volet de la série en 1986. Chaque épisode s'est hissé au sommet des classements des meilleurs jeux vidéo au Japon. Et tous ont été inspirés par de nombreux jeux de rôle sur micro-ordinateur. Il est généralement considéré comme le premier représentant du genre sur console de jeux vidéo. Bon. Alors. pour les micro-ordinateurs, c'est que, alors, un micro-ordinateur, c'est un ordinateur individuel fonctionnant à la manière autonome grâce à son microprocesseur, hein, et à son disque dur et à sa mémoire interne.
Ouais.
Bon, donc c'est assez particulier. Je pense pas que ça soit en rapport avec les ordinateurs qu'on avait à l'époque, mais bref. Là, c'est pas le sujet. Donc, au niveau du synopsis du jeu. Alors, Dragon Quest Heroes 2 est un action RPG Battle Hall. Alors, un Battle Hall, c'est quoi?
Un muso, quoi, en gros. Hein.
Ouais, bah, alors déjà, pour commencer, les gens, on va leur expliquer ce que c'est qu'un muso. Donc, un muso, c'est quand vous avez un paquet d'ennemis devant vous par centaines et il faut tout ce que vous voulez taper, c'est tout. Hein. Voilà, il n'y a pas plus bourrin dans la matière. Quoi. Je pense qu'on peut pas faire ça, qu'on peut pas résumer le truc aussi simplement. Donc, alors, cela vous plonge donc du coup dans une guerre mettant en scène sept royaumes et les héros des différents royaumes doivent s'allier pour arrêter ça. Donc, alors au niveau des fonctions, alors le jeu est un hack and slash, c'est-à-dire que c'est un système de gameplay qui met l'accent sur le combat où les personnages gérés par le joueur ont une dynamique généralement assez rapide. C'est-à-dire que c'est pas vous tapez toutes les deux secondes, c'est vous tapez un coup par seconde, quoi, voire plus. Donc c'est du lourd et c'est du dynamique. Donc les personnages sont capables de se déplacer vers l'endroit où ils veulent. Mais cependant, certaines zones seront tout de même à débloquer avec la progression du mode histoire.
Ce qui est assez logique.
Oui. Alors ensuite, on a le mode timeline labyrinthe qui consisterait... ce serait un mode exclusivement multijoueur visant à faire appel à des fans de Dragon Quest de longue date. Donc c'est à débloquer en trouvant des morceaux de labyrinthe répartis dans toute l'histoire principale. Alors je ne sais pas exactement comment ça va être plus ou moins fichu, mais à mon avis, je pense que ça pourrait être pas mal selon ce qu'on aurait à proposer au niveau du contenu. Jusqu'à 4 joueurs peuvent jouer ensemble pour des missions multijoueurs. Ça, c'est notifié. Le chat en ligne... Ah, par contre, intéressant. Le chat en ligne n'est pas disponible, mais les joueurs peuvent sélectionner des expressions courantes communes pour communiquer entre eux. Donc, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas, par exemple, taper, dire « Oui, vas-y, comment ça va ? Comment je fais ci ? Comment je fais ça ?» Vous aurez juste une fenêtre dans laquelle vous devrez sélectionner la phrase à dire, quoi. C'est-à-dire, je vais attaquer ce mob-là, je vais attaquer ce mob-ci. Le mob, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon des gamers, le mob, ça fait allusion au monstre. Ou encore d'autres, par exemple, ce sera juste coucou ou au revoir, voilà.
Ce qui est assez basique, quoi.
C'est ça.
Ce qui est bien dommage.
En revanche, on va avoir une option de lecture multiplateforme. Alors, une option de lecture multiplateforme, c'est quoi? Ça veut dire que vous pourriez transférer votre sauvegarde la sauvegarde d'un de vos contacts vers la vôtre, et inversement. Ce qui va vous permettre d'intégrer vos personnages dans la partie de votre ami, et en plus de ça, de pouvoir sauvegarder tout ce que vous allez y trouver, items, potions, armes, etc., dans votre inventaire, et le sauvegarder sur votre partie à vous. Et inversement pour tous les joueurs. Donc là, on pense qu'ils ont quand même fait un sacré travail au niveau du partage des données de sauvegarde. Non, franchement, là, j'applaudis Enix pour le phénomène. Rien que ça, c'est pas mal du tout.
Bon, ben, c'est pas mal. Ouais. Du coup, on a un bon sujet. Dragon Quest Heroes, on sait très bien que Dragon Quest est hyper connu. Hein. On sait qu'il y en a encore des épisodes sur 3DS. Hein,
et qu'il y en aura encore beaucoup à venir, à mon avis.
Le 11 qui arrive on sait pas quand, mais il y a un 11 qui est prévu sur PS4 ça... et Switch.
Sachant qu'on va avoir enfin le Dragon Quest X qui est sorti uniquement à la base au Japon il y a un sacré moment, mais uniquement sur Wii, et qui était pour propriété d'être un MMORPG en ligne. Seulement, il n'est jamais venu jusqu'à chez nous.
Et ouais, il va enfin arriver.
C'est ça.
Il était temps. Mais écoutez, ben moi je vais vous parler d'une licence pas aussi connue que Dragon Quest, mais connue aussi, qui est Xenoblade Chronicles 2. Qui fait la suite directe du 1 qui était sorti sur Wii, et puis après qu'ils ont fait un portage sur la 3DS. Et là, ils ont annoncé la suite, justement, et qui s'annonce vraiment énorme. Graphisme, style animé, manga en plus. Gameplay, monde ouvert. Hein, c'est pareil que le 1, donc on va attaquer, ça va être de l'action, quoi. On va pouvoir bourriner, utiliser nos compétences, ce qu'il y avait par rapport au 1. Et on voit que sur son épée, il y a encore un air de Monado qu'on avait, pour ceux qui n'ont pas fait le 1, mais à la fin du 1, voilà, Monado et...
Enfin, je pense qu'il faudrait éviter de trop spoiler les
jeux. Ouais, mais voilà, mais je pense généralement les gens l'ont fait parce qu'ils ont la Wii et la 3DS. Voilà. Et puis voilà, mais un épisode qui s'annonce énorme. Encore un monde ouvert, encore. Hein. Ce qui est à la mode en ce moment, ça n'en finit plus. Mais voilà, mais je crois que.
Sinon, pour Xenoblade Chronicles 2, pour en venir rapidement, est-ce que tu as un petit peu d'informations sur le niveau du synopsis?
Ben non, c'est juste que c'est un ça va être un peu pas la même chose que le 1, mais on sait que ça va être une personne qui a dû quitter son village parce que son village va se faire détruire par les ennemis justement de ce village, et lui il a dû partir de son village, mais il revient, il veut revenir plus puissant que jamais, et justement avec l'épée Monado, justement on sait très bien que c'est une épée hyper abusée. Mais écoutez, ben voilà, nous allons lancer une petite pause musicale. Et nous allons enchaîner avec cette troisième rubrique.
Fréquence Gaming, le débat.
Sur la Nintendo Switch, vaut-elle son prix? Alors, Bastien, qu'en penses-tu?
Alors, bon, déjà, j'ai qu'une chose à dire, c'est qu'au niveau du design, l'aspect, c'est vraiment très, très joli. Mais ce qui est encore plus, mais ce qui m'a vraiment hypé surtout, c'est surtout le concept hybride, portable et salon. Ça, c'est une première. C'est une première.
C'est une première, c'est des... oui, tout à fait.
Personne n'y, aucun concepteur console n'y a pensé. Nintendo ont été le premier à avoir trouvé l'idée. Alors, bon. Ensuite, c'est sûr que, moi, personnellement, ça me dérange pas. Franchement, je pense que j'aurais pas de problème avec la Switch si je venais à l'acheter. Parce que j'ai jamais été trop cherché sur la puissance graphique. Hein, parce qu'il faut dire quand même ce que c'est au niveau de la réalité. La Switch est moins puissante qu'une PS4. Hein. Ils l'ont annoncé Nintendo eux-mêmes d'ailleurs.
Ben, on sait très bien que de toute façon Nintendo, ils sont pas la course au graphisme. On l'a toujours su, hein.
Ça a quand même été le cas à une époque avec la 64 et la GameCube. Mais depuis, c'est vrai qu'ils ont changé d'horizon. Ils se sont un peu élargis.
Voilà, et ils ont fait beaucoup plus de licences et on sait très bien que au niveau de leurs jeux, les graphismes, c'était pas trop ça, mais justement, c'était des très bons jeux, justement.
Ouais.
Mais disons, alors pour toi, vu qu'elle coûte dans certains magasins, elle coûte à 310 €, par exemple, à Micromania, à Leclerc, elle vaut à 293 €. Est-ce que pour toi, par exemple, aux gens qui voudraient l'acheter, que leur dirais-tu justement ? Est-ce que ça vaut son prix ? Pour parler de la Nintendo Switch, moi je pense qu'elle vaut largement son prix parce que Nintendo ont frappé fort avec cette console justement, une hybride. C'est la première console portable, la première console qu'on peut transporter partout et qui justement, c'est la première console aussi portable qui a des vibrations dessus. C'est à ça aussi qu'il faut souligner. La PS Vita, vous pouvez la porter partout, mais il n'y a pas de vibration. La Nintendo 3DS, il n'y a pas de vibration dessus. Là, c'est bien. En plus, alors ensuite, il faut savoir que niveau batterie, niveau autonomie, si vous voulez la transporter dehors, par exemple dans votre bus et tout, c'est 2 heures d'autonomie. C'est moins faible qu'une 3DS, mais moi je trouve que c'est logique parce que sachant que les jeux sont un peu plus puissants que la 3DS, donc du coup ça prend plus de puissance, donc du coup ça utilise plus de batterie. Donc
surtout qu'il semblerait que dans les mois à venir on pourra avoir des accessoires qui seront des batteries portatives, donc du coup ça pourrait prolonger
l'autonomie
hors console.
C'est ça.
Donc ce qui est vraiment une bonne chose. Ensuite, il faut noter que pour les Joy-Con, eux aussi, ils ont une batterie indépendante, mais ils ont quand même 15 heures d'autonomie. Donc, c'est vraiment suffisant.
Pour quelqu'un qui va jouer à Zelda dans son bus, il est satisfait, quoi.
C'est ça.
Par exemple. Et après, il faut savoir aussi que niveau graphisme, bon, il y a certains jeux qui seront beaucoup, je prends l'exemple de Zelda, par exemple, qui est plus beau en version portable qu'en version console. Moi, d'un côté, je trouve pas ça logique. Pour moi, ils auraient dû faire la même chose, justement. Pas l'inverse, quoi. Parce que le mec, s'il veut jouer chez lui, par exemple, et que c'est moins joli sur sa télé qu'en version portable, est-ce qu'il va pas préférer personnellement de la transporter partout au lieu de jouer chez lui, par exemple?
En fait, j'ai envie de te dire, je dirais que c'est surtout si tu as le choix entre la qualité graphisme d'un côté et la taille de l'écran de l'autre.
Oui.
Voilà.
C'est surtout là, c'est la taille de l'écran qui va jouer, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est qu'on va dire ça là-dessus. Mais rien ne nous dit qu'il y aura d'autres jeux où il y aura un meilleur effet sur les grands écrans que sur les petits. Ça, c'est de savoir.
Après, moi, ce que je trouve aussi excellent sur cette console, c'est au niveau des Joy-Con, mais c'est, on dirait même des Wiimote à l'époque de la Wii, quoi. Je veux dire, on peut les détacher de son écran.
De base, dis-toi bien que la Switch, c'est un combiné de tout ce que Nintendo a sorti pendant toutes ces années, quoi.
De la NES
à la Wii U. Ils ont tout combiné dedans. Ils se sont pas fait chier.
C'est ça, mais les Joy-Con qu'on peut détacher de la console, qu'on peut jouer directement ensemble. En plus, on peut en donner un à l'autre, jusqu'à 2 joueurs. Voilà. Donc, après, j'ai vu qu'il y en a qui préfèrent jouer sur la manette pro de la Nintendo Switch, parce qu'il faut savoir aussi qu'ils sortent en même temps que la console, une manette pro.
Ouais, mais bon, le problème, je pense, c'est que j'aurais par contre aimé, c'est qu'ils la fournissent dans le pack d'achat de base.
Et malheureusement, elle est à part et elle est à 70 €. Le prix,
s'il fait un peu mal pour un lancement, quoi.
Voilà, il y a déjà 2 manettes avec.
Joy-Con. Faut quand même pas oublier non plus qu'ils ont justement l'adaptateur pour les Joy-Con, justement.
Donc,
il y a l'adaptateur transverse, je sais plus comment ça s'appelle déjà le. tu sais à ce qui sert pour les Joy-Con, tu les poses de tu les fais coulisser dessus, ça te fait de ça,
oui
ça,
c'est une manette, c'est une genre de, c'est une version like de la manette pro quoi, c'est malgré qu'ils offrent pas une manette pro avec la console, il y a toujours moyen de faire une petite manette. C'est sûr, ça vaut pas la manette pro, mais c'est toujours ça. Moi, je pense que la Nintendo, pour moi, c'est sûr que ça vaut pas PS4 ou Xbox One, mais ils ont frappé fort quand même Nintendo. Donc moi, j'ai fort espoir sur cette console, mine de rien. Des gros jeux qui vont arriver, hein, parce que bon, c'est vrai que là, il y a que Zelda, mais il faut savoir qu'après, il va y avoir le Mario Odyssey qui va arriver, qui s'annonce être un open world, Dragon Quest, Dragon Quest 10 et 11. Fire Emblem Warrior qu'on n'a pas parlé tout à l'heure justement, qui s'annonce énorme celui-là aussi.
Du coup là aussi c'est un beat'em all.
C'est donc, ça.
Sachant qu'à la base c'était réputé pour être un très gros jeu de stratégie. Donc
mais
là
c'est un beat'em all.
Donc là c'est plus le même concept.
Et voilà aussi on va parler aussi justement au niveau de la console, au niveau de l'interface, parce que moi j'ai vu des lives et tout de la Nintendo Switch, donc je peux un peu parler de l'interface. Il faut savoir que au niveau de l'interface c'est plus simplifié et c'est instantané. Quand vous allez prendre une capture d'écran, la photo va être directement sur votre console. C'est pas comme sur PS4 où on prend une capture d'écran et ça met 2-3 secondes plus tard sur votre console. Là, c'est instantané. Vous sortez de votre jeu et vous rentrez dans votre jeu, c'est instantané. Vous l'allumez, vous l'éteignez, c'est instantané. Tout est instantané et hyper rapide. Donc ça, je trouve ça un bon point aussi au niveau de la console. Donc parce qu'on sait que l'interface de la Wii U c'était bien mais c'était pas top non plus.
C'était un peu lent, c'est vrai.
C'est ça. Et le retour des codes amis aussi. On pourra mettre des codes amis sur la Nintendo Switch. Mm. Donc ça, ce qui est plutôt pas mal. On pourra voir qui c'est qui est connecté ou pas. Donc.
Alors ensuite, il y a juste un truc que j'ai pu constater, c'est que d'ailleurs en parlant des jeux justement, il se trouve que là, on va contrairement à ce qu'on pourra avoir en tant que CD sur la PS4 et la Scorpio. La PS5 et la Scorpion, pardon, excusez-moi, c'est que la Switch, elle turbinera avec des cartouches.
Eh oui, le retour des cartouches.
C'est ça. Sauf
ça
que
fait
là,
longtemps qu'on
que
attendait
là,
celle-là.
Sauf
en plus.
Que là, la taille, c'est des micro SD, a priori.
Ouais. Ah oui, il faut savoir qu'au niveau de la mémoire, justement, tu fais bien d'en parler.
Oui.
Au niveau mémoire de la console de base, elle est à 32 gigas, ce que je trouve ça faible. Mais vous pouvez mettre des cartes micro SD. Donc il y a des cartes à micro SD qui sont à 128 gigas, mais après c'est pas le niveau prix. C'est
de manière vu ce qu'on peut trouver aujourd'hui, je pense que ça devrait pas être un trop gros problème pour quelqu'un de s'en procurer une.
Oui voilà, mais je trouve que c'est un peu faible au niveau de base. 32 gigas, ça me paraît peu. Quand
en même temps, tu me diras, nous sur la DS et 3DS, niveau mémoire, c'était pas terrible. Là encore. Pour pouvoir augmenter la mémoire, il fallait rajouter une micro SD. Le problème, c'est qu'il fallait dévisser le socle pour pouvoir ensuite la mettre dedans.
C'est ça.
C'était assez chiant, quoi. Donc, bon.
Mais voilà, moi, c'est tout ce qu'on pourra, on a dit pas mal de choses au niveau de la Switch. Bon, après, je trouve qu'il y a bon espoir, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bah, écoute, moi, j'ai envie de te dire, Nintendo, ils ont réussi à nous sortir, le tout pour le tout, hein, parce que quand même on va pas se cacher non plus, c'est un peu leur dernier espoir, parce que vu comment ils sont sur le marché en ce moment,
ça passe ou ça casse,
hein, c'est clair. S'ils se plantent, ça va devenir des éditeurs tiers et plus des constructeurs, ça c'est sûr.
Ben voilà, je pense qu'on a tout dit au niveau de Nintendo. Ben on leur souhaite que de la chance à Nintendo.
Ça dépendra d'eux, hein, pas de nous.
J'espère qu'ils feront un bon lancement de Nintendo Switch, et moi je l'espère, parce que je vais adorer cette console. Et puis voilà, ben c'était tout pour le débat, nous allons lancer une pause musicale. We are.
Soleil.
lancer la prochaine rubrique.
Fréquence Gaming, le rétro gaming.
Eh bien, côté rétro gaming, moi, je me permettrai de vous présenter Super Mario 64. Alors, pour ceux qui ne savent pas, alors, déjà, un Super Mario, c'est quoi ? Ça met en scène Mario, un plombier italien, qui a atterri dans une sorte de monde assez particulier, et il doit voyager entre divers mondes via des tuyaux et d'autres plateformes de tout genre pour sauver la princesse Peach d'une très grosse tortue à piquant nommée Bowser. Donc, alors, Mario 64, c'est quoi, déjà? Alors, pour en venir au principal, c'est, comme son nom l'indique, c'est le premier Super Mario à être sorti sur Nintendo 64 en 1997, qui est également le premier jeu en 3D de la série, et dans lequel vous allez parcourir le monde de Mario en 15 niveaux via divers portails à partir du manoir de Peach, qui est enfin le château plutôt, puisque Peach est une princesse de base, et dans lesquels vous aurez deux objectifs à suivre tout au long du jeu. Le premier étant de rassembler 120 étoiles afin de plus tard aller sur le toit du bâtiment pour aller retrouver Yoshi qui vous refilera 100 vies. Et enfin l'autre, c'est de battre Bowser 3 fois pour délivrer la princesse Peach. Ce que vous aurez à faire principalement là-dedans, c'est de sauter sur les ennemis, récupérer des caisses et obtenir des items qui vous permettront de progresser dans le jeu. Vous avez pour cela trois items spéciaux. Le premier étant l'item de métal qui vous rend plus lourd qu'une pierre et qui vous permet donc d'avancer dans les fonds et d'éviter de se faire toucher par des gaz toxiques dans certains niveaux. Le deuxième qui vous permet de voler. Et enfin, le troisième qui vous permet de devenir invisible et donc de passer à travers les murs.
Pas mal.
Voilà.
Ben, moi, je vais vous lancer Ocarina of Time, qui est Zelda, hein, qui était le premier Zelda, le premier Zelda 3D sur la Super Nintendo 64. Il faut savoir que l'histoire, c'est il faut sauver la princesse Zelda qui a été kidnappée par Ganondorf. Un peu similaire, on va dire, à Mario, hein. On ne dira pas ça.
Bon, maintenant, c'est le même éditeur, donc.
Voilà. Et donc, on va faire traverser des villages, histoire d'en savoir plus sur Ganondorf. On va devoir battre des boss, récolter des médaillons et des pierres, justement, pour arriver jusqu'au château de Ganondorf. Vous avez plusieurs types de gameplay avec des arcs, avec un ocarina, un grappin et un arc.
Aussi le boomerang, on peut...
Le boomerang aussi, vous avez plusieurs tenues dans certains mondes, la tenue de feu, la tenue de glace, et la tenue basique, la verte, et surtout récupérer la Master Sword, qui est l'épée principale quand même de Link.
Il ne faut pas non plus oublier qu'on a aussi le bouclier qui va avec.
Et le bouclier d'Hyrule, justement. Et il faut savoir que dans Ocarina of Time, on commence en étant enfant, et c'est le premier Zelda où on voit le Link grandir, justement. Parce qu'il commence petit, et après il devient grand... au milieu de l'aventure.
C'est ça, parce qu'en fait, au milieu de l'aventure, à un moment donné, vous retirez l'épée de maître de son socle, dans lequel elle se trouve, Link se retrouve plongé dans un sommeil et dans lequel il se réveille 25 ans plus tard, dans lequel il est devenu adulte.
Et voilà, c'est ça.
Donc du coup, à chaque fois que vous vous retrouvez sur le piédestal pour remettre l'épée, vous retournez dans le passé et vous redevenez petit.
C'est ça.
Ça, franchement, c'est vraiment bien trouvé, je trouve.
Et voilà, et ensuite, il y a un système de scutula à récupérer, faire des quêtes pour avoir des nouveaux cartes de cœur.
Alors, est-ce que tu l'as, juste pour rappel, ce sont des araignées dorées.
Et ouais, c'est ça. Et puis, les cartes de cœur en faisant des quêtes pour qu'on ait plus de vie. Et voilà, c'est un très bon jeu rétro. Je pense que même à l'heure actuelle, si on le referait, on prendrait toujours autant de plaisir à le faire. Parce que c'est Zelda, hein, j'ai envie de te dire.
Et à mesure, quand même, je pense que pour beaucoup de fans de la série, ça reste encore quand même le meilleur opus, quoi.
Et ça fait partie, ouais, des meilleurs opus, malgré même que ça a eu des opus précédents, hein, sur Super Nintendo, Game Boy aussi. Après, ça a évolué au fil du temps. Hein. Nintendo ont toujours renouvelé Zelda, et c'est ça qui est pas mal. Voilà. Eh ben, nous allons enchaîner avec la dernière rubrique. Qui est la rubrique éditeur constructeur. Donc aujourd'hui, c'est la spéciale Nintendo. Donc qui dit spéciale Nintendo dit Nintendo. Il faut savoir que Nintendo a été fondée en 1989 par Fushisharu Yamauchi au Japon en 1970. Alors que la diversité ils ont commencé à se diversifier en 1970 en produisant des bandes d'arcade et des jouets. Et en 2008, la consécration pour Nintendo, qui a été classé premier éditeur de jeux vidéo. Ensuite, on a eu un décès chez Nintendo, hein, qui est hyper connu.
Oui, effectivement.
Satoru Iwata, paix à ton âme, qui est décédé en 2015. Et ils ont élu un nouveau président à la tête de Nintendo, qui s'appelle Tatsumi Kimishima. Je sens que ce nouveau président va annoncer quelque chose pour Nintendo. Non seulement le retour des conférences, je l'espère. Il faut savoir, pour la Switch, ils avaient fait une conférence. Donc, j'ai l'impression que ce nouveau président a bien repris la tête de Nintendo avec, même s'il n'a pas connu Satoru Iwata, Satoru Iwata m'a beaucoup marqué chez Nintendo. Je l'oublierai jamais, ce président. Pour moi, c'était un des bons présidents de chez Nintendo.
Bah ouais, franchement, ce que j'ai à dire surtout, c'est que ce qui m'a surtout épaté le plus chez Nintendo, c'est que quand tu sais que la firme a quand même commencé en vendant des jeux de cartes, c'est quand même fou de voir un peu ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, quoi.
Mais voilà.
Quoi, on sait jamais de quoi demain sera fait.
Bon, ben voilà. Je pense que ça sera tout pour cette émission, à moins que tu aies quelque chose à dire encore.
Ah non, écoute, c'est la fin de notre émission, donc il est temps maintenant pour nous de nous quitter. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain Fréquence Gaming sur Radio Territoire Ventoux. Salut Dimitri.
Au revoir Bastien.